France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Grand Bien Vous Fasse. Nous sommes à vos côtés tous les jours de 10h à 11h en direct sur France Inter. Alors souvenez-vous, ça commence dans l'enfance avec l'envie de ramasser des cailloux, de plonger les mains ou les pieds dans le sable sur la plage, de caresser l'herbe, de sauter dans les flaques et bien sûr, de jouer avec de la gadoue. Et puis en grandissant, c'est les premières plantations à l'école, dans le jardin de la famille ou dans le potager des grands-parents. Et puis il y a toutes ces sensations, la terre que l'on retourne avec ses mains, l'odeur du basilic, de la menthe, de la ciboulette que l'on a plantée, le goût des tomates que l'on a récoltées, le bruit de toute cette vie silencieuse qui pousse autour de nous. Ces souvenirs, ces sensations sont fondateurs de notre connexion à la nature. Comment donc retrouver ce plaisir sensible du contact avec la vie naturelle? Comment renouer avec nos forêts, nos haies, notre sol, nos plantes? Comment transmettre à nos enfants l'importance de cette connexion quotidienne, presque ordinaire, avec cette nature qui nous entoure et qui nous porte? Ce sont les questions que nous nous posons ce matin avec vous, chers auditeurs et chères auditrices. Racontez-nous le plaisir que vous ressentez quand vous êtes au cœur de la nature, dans votre jardin ou dans une forêt. On attend vos témoignages au 01 45 24 7000, vos courriels, vos notes vocales sur l'application de Radio France. Et vous pouvez également nous laisser un message sur la page Facebook de l'émission ou sur WhatsApp. Nous sommes le vendredi 11 juillet, je suis Thibaut de Saint-Maurice et on embrasse bien fort Eva Rock. Vous écoutez France Inter, Grand Bien Vous Fasse, c'est aussi l'été.
Grand Bien Vous Fasse sur France Inter.
Vous savez comment ça pousse les plantes ?
Oui, ça pousse avec du soleil.
Du soleil ?
Avec de l'eau.
De l'eau ?
Avec la terre.
La terre, oui. Et des graines.
J'ai planté de la ciboulette. J'aimais bien. La dernière fois dans mon jardin, j'ai planté des tomates cerises.
J'adore faire du jardinage.
Après, ça pousse et ça nous fait des jolies plantes.
Extrait d'un très joli, très mignon sujet diffusé dans l'émission La Maison des Maternelles et des enfants donc très heureux de mettre les mains dans la terre. Évoquons donc ce matin ce plaisir d'être connecté à la nature et ce grâce à nos trois invités. Bonjour Jacques Tassin.
Bonjour.
Alors vous êtes en duplex depuis Montpellier grâce aux moyens techniques de nos confrères d'ICI Héro. Vous êtes biologiste au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, voilà, c'est le CIRAD. Et vous avez récemment coordonné le livre « Vivre en forêt » aux éditions Odile Jacob. Bonjour Marc-André Sellos.
Bonjour.
Alors vous êtes loin de la France, si je suis bien renseigné, vous êtes microbiologiste, vous êtes professeur au Muséum d'Histoire Naturelle et vous signez « Nature et préjugés, convier l'humanité dans l'histoire naturelle », un livre paru chez Actes Sud. Comment est-ce qu'on pourrait résumer, Marc-André Sellos, votre domaine de recherche ?
Ah ben alors, moi je suis un passionné de champignons et j'ai notamment très tôt essayé de comprendre où est-ce qu'ils vivaient. Et c'est comme ça que j'ai été conduit notamment à étudier le sol et finalement toute la diversité microbienne du sol. Et je me passionne aussi pour les applications de ça. Je suis passionné des gestes agricoles, mais je reste quand même quelqu'un qui aime bien sentir le sol et mettre les pieds dessus. On en reparlera, peut-être pas les mains.
Absolument, un amoureux du sol, on en reparle. Et avec nous, en studio, notre troisième invité. Bonjour Ophélie Damblay.
Bonjour.
Alors vous avez un parcours étonnant, vous allez nous le raconter. Aujourd'hui, vous êtes pépiniériste à la Cité Fertile, en Seine-Saint-Denis, et vous animez également des ateliers. Et on peut vous suivre sur Instagram. Alors votre compte s'appelle Ta Mère Nature, un compte suivi par plus de 270 000 abonnés. Et on retrouve évidemment vos vidéos sur YouTube et sur TikTok. Alors, je voudrais qu'on commence cette émission avec une expérience sensible, puisqu'il est question finalement de sensations et de connexions ce matin. Marc-André Sellos, j'aimerais que vous nous embarquiez dans le bois de Vincennes, où enfant, vous vous promeniez avec votre grand-père. Quelles sont les senteurs qui vous reviennent à l'esprit ?
Alors, il y a tout un tas de senteurs de végétation, vous en parliez, l'odeur du basilic, ok, il y a plein d'odeurs de plantes, mais pour moi, il y avait plusieurs autres odeurs. Il y avait celle, d'abord, notamment après la pluie, cette odeur très particulière, que je retrouvais plus concentrée dans le sol. Vous savez, l'odeur de la terre, c'est l'odeur des bactéries qu'il y a dedans. C'est un produit de bactéries qui vivent dans le sol, qu'on appelle la géosmine. Et c'est elle qui donne l'odeur de terre. Et quand il pleut, elle passe. Quand l'eau de pluie remplit les pores du sol, elle passe dans l'air. Et ça vous donne cette odeur d'après la pluie. C'est l'odeur de terre diluée. Puis moi, j'étais passionné de champignons. Et il y avait tous ces champignons que je ne pouvais identifier. Parce que c'est dur d'identifier des champignons. Dès 12-13 ans, moi, je ramenais des champignons pour leur donner un nom. Et en fait, c'est très, très difficile de les identifier. On a besoin d'un maximum de critères. Et vous savez quoi? Les mycologues passent leur temps à flairer les champignons. Avec des odeurs d'anis, des odeurs de pommes, des odeurs de poire. Bien sûr, des odeurs de champignons. Ah, ça aussi, d'ailleurs, c'est une odeur qu'on trouve dans le sol. C'est l'octénol, en l'occurrence. Mmh. Et donc, voilà. Voilà, pour moi, le nez a été un truchement dans le lien au monde vivant très très tôt.
Une connexion est assez fondamentale. Alors, Ophélie, d'emblée, je crois que vous, c'est le jardin de votre grand-mère près d'Agen, qui est un endroit merveilleux. Est-ce que vous pouvez nous le décrire aussi grâce à votre goût ?
Oui, j'ai des super souvenirs de ma grand-mère qui m'embarquait pour aller à la récolte des haricots, des pommes de terre ou encore des tomates. Et il y avait voilà cette idée aussi qu'on cuisine ensuite ensemble. Et c'est comme ça en fait que ça m'a suivi ensuite plus tard, c'est ce goût pour les choses à la fois assez brutes et très goûteuses. Quand on a la chance de faire pousser sa propre tomate et qu'on la mange ensuite, c'est magique.
C'est toujours meilleur.
C'est toujours meilleur, oui. Alors il y a peut-être une dimension aussi un peu psychologique, mais ça, voilà, ça, c'est tellement précieux. Et c'est aussi les rares interactions très complices que j'ai eues avec mon grand-père, puisqu'on écossait les haricots ensemble. Et donc voilà, c'est des souvenirs très forts que j'ai de mes deux grands-parents.
Avec un lien donc à l'enfance. Alors Jacques Tassin, avec vous, on est obligé de partir en forêt. Cette forêt, donc, vous la connaissez bien. Et je sais que vous avez un chêne dans votre jardin que vous aimez particulièrement. Qu'est-ce que vous entendez quand vous êtes à proximité de ce chêne?
Alors ce que j'entends, c'est assez trivial ce que je vais vous dire, mais ce sont d'abord les oiseaux qui chantent dedans, parce qu'il y a effectivement sentir, il y a toucher, mais il y a aussi écouter. Et écouter, c'est un moyen très simple, hein, qui est accessible à tous, pour retrouver cette relation, forger, tisser cette relation avec ces êtres vivants qui signalent leur présence par des chants ou par d'autres manifestations sonores. Donc, alors moi, je suis doublement gâté parce que j'ai un beau chêne dans mon jardin, mais en plus, il chante des loriots.
Vous avez la vue et le son. Voilà. Alors, c'est vrai que cette question, on a tous, hein, elle nous permet de nous rendre compte qu'on a tous des souvenirs sensibles, une sorte d'imaginaire et de mémoire sensible de sensations avec cette nature qui nous entoure, mais est-ce qu'il ne faut pas, Jacques Tassin, remettre aussi un peu au centre du débat cette expérience sensible contre parfois une approche un petit peu trop technique ou un petit peu trop économique de l'écologie ?
Moi, je dirais qu'il ne faut pas opposer les deux. Les deux approches sont complémentaires et se nourrissent l'une l'autre. Bon, moi, vous êtes philosophe, donc je vous renvoie à la phénoménologie de la perception de Merleau-Ponty, qui montrait combien la perception précède tout travail intellectuel. Donc tout ça, en réalité, est dans une continuité. Donc cette opposition qui est un peu fabriquée, qui est décrétée et entretenue, malheureusement, elle reste en grande partie virtuelle.
Elle est virtuelle, mais c'est justement peut-être quelque chose qu'il faut réapprendre à réconcilier, surtout à expérimenter dans notre quotidien. Marc-André Sellos, il y a bien une beauté dans cette observation de la nature, quelque chose, une forme d'émotion très, très première, comme le disait Jacques Tassin, qui nous fait du bien.
Ah oui, alors, tout à fait. Alors, quand on voit les choses, on peut ressentir la dimension esthétique. Quand on sent les odeurs... Là, c'est plus compliqué parce que ça parle au système limbique, c'est-à-dire c'est un système qui n'est pas complètement conscient, ça crée des émotions. Et effectivement, le côté émotionnel dans la perception de la nature, il est très fort. Maintenant, c'est vrai aussi que ce côté émotionnel, il est en nous. Hein. La nature n'est pas belle. Nous la trouvons belle. Et c'est quand même quelque chose qui peut irriguer une vie. Hein. Il y a des plaisirs, et comme l'évoquait Jacques, des plaisirs pas chers que tout le monde peut se payer pour le coup, hein, à prendre. Mais il faut bien concevoir les choses. Hein. Le beau, c'est dans notre œil. C'est Voltaire qui disait, demandez à un crapaud qu'est-ce qu'il trouve beau, ben, il vous répondra que c'est sa crapaude. Quelque part, le beau, c'est quelque chose qui peut nous pousser vers le vivant, mais quand on veut comprendre ce qu'est le vivant, il faut ensuite rebondir sur le beau et je pense passer plus à comment ça marche,
oui, à comprendre.
Et comment on peut s'en servir. Et ça a beaucoup manqué à nos sociétés, ça, de savoir bien utiliser le vivant. Hein.
En effet. Ophélie, d'emblée, vous, votre parcours est révélateur. Alors, vous avez eu plein de vies. Vous êtes née en Ariège, vous avez été chanteuse punk, assistante en communication digitale dans une agence de pub. Et puis, en 2017, donc, changement de cap. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est quoi ce changement de cap? Vous aviez besoin de comprendre, de revenir à, justement à une connexion un petit peu plus réelle, un petit peu plus fondamentale?
Oui, alors c'est marrant parce que effectivement je suis née plutôt dans le milieu rural et pourtant même en côtoyant les jardins et le potager de ma grand-mère, c'est pas spécialement quelque chose qu'on a cherché à me transmettre ou en tout cas c'était pas des voies professionnelles qu'on encourageait quand j'étais petite et donc voilà, j'ai côtoyé à 14 ans les premiers jobs qu'on fait quand on est ado, c'est d'aller castrer le maïs. Donc voilà le monde agricole, j'en avais fortement conscience. Mais ben, l'agriculteur, c'était aussi le benêt, quoi. C'était le crotteux, c'était pas celui qui était valorisé aux yeux de la société. Et donc, moi, je suis arrivée à 17 ans à Paris pour faire des études plutôt dans le milieu culturel. Et j'ai eu cette sensation pendant 10 ans de m'être complètement coupée de, finalement, ce que j'avais dans mon assiette. Et il y a eu un moment où vraiment, je me suis dit, mais mince, c'est fou, quoi. J'ai eu accès à la terre, au jardin, et pourtant, je n'ai aucune idée de comment pousse une tomate. Vraiment, j'ai pas encore bien compris tout le process. Et il y a eu cette angoisse de ne pas maîtriser ce savoir ancestral, de m'être peut-être un peu aussi coupée de mes racines. Et c'est ça qui m'a donné envie d'aller apprendre à faire pousser les légumes. Alors après, c'est vraiment la dimension pédagogique qui m'a intéressée. J'ai eu envie aussi de transmettre ce que j'apprenais.
Alors ça, on va effectivement en reparler à la fois de ce désir de connexion et puis ce désir de le transmettre. On va donc continuer de l'évoquer. N'hésitez pas à réagir pendant l'émission. Le numéro, vous le connaissez, hein, c'est le 01 45 24 7000. Décrivez-nous donc les sensations qui vous envahissent au contact de la nature. Mais pour l'instant, il est 10h17. Vous écoutez France Inter et vous écoutez Madonna. Madonna et Hang Up, un titre de 2005 sélectionné par Valentine Chedebois.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Essoufflé par la ville, Emeline et Valère quittent Grenoble. En 2011, ils rachètent une petite ferme nichée dans la montagne ardéchoise. 40 chèvres laitières, le tout pour 80 000 euros.
Le choix de vie qu'on a fait, il nous rend heureux en fait.
Tu vois, on a besoin
tous
de...
Le matin, on se lève, on se dit, on a une dure journée qui nous attend. Mais toutes les heures, tu vois un truc qui te remet la banane, quoi.
Ce retour à la terre, ils sont plusieurs milliers à le faire chaque année. Des citadins qui ne connaissent rien à l'agriculture. Qu'importe, ils y voient leur avenir.
Venez les filles, venez. Elles sont contentes.
On ne naît plus paysan, on le devient.
Extrait d'un reportage tourné en 2019, soit avant le Covid. Alors quel plaisir avons-nous à être connectés à la nature? Nous en parlons ce matin avec nos trois invités. Ophélie Damblay, alias Ta Mère Nature, le microbiologiste Marc-André Sellos et le biologiste Jacques Tassin. Et aussi avec vous, chers auditeurs et auditrices, vous nous avez écrit. Alors Sylvie, on en parlait justement, nous rappelle que l'odeur après la pluie, cette odeur, elle a un nom, elle s'appelle le pétrichor. Et puis Catherine, qui elle est membre d'un jardin partagé, qui nous dit qu'elle jardine avec d'autres personnes et que ça permet de partager les joies et les galères de la culture en maraîchage et qu'il y a là un formidable lien social. Ophélie, d'emblée, on l'a entendu dans l'extrait là, de reportage, il y a ce désir de revenir donc à la nature, à une forme aussi d'autres liens sociaux. Et puis il y a cette formule, on ne naît plus agriculteur, on le devient, mais pour autant, parfois, ces changements de vie, ils sont un peu moqués. On dit, voilà, c'est un peu une sorte de rêve ou d'illusion de bobo qui veut comprend pas grand-chose et qui veut revenir absolument à une sorte de vie un peu fantasmée. C'est peut-être un peu plus complexe que ça. Comment est-ce que vous voyez ces changements de vie et ces retours à la Terre?
Alors, qui les moque? Posons-nous la question, mais en tout cas, ce que moi je sais, c'est que 50% des agriculteurs partent à la retraite là dans les 10 prochaines années. Donc, il y a vraiment un enjeu de renouvellement des générations futures. Et à côté de ça, on a aussi beaucoup de gens qui sont en perte de sens dans leur travail, qui sont malheureux, les fameux bullshit jobs dont on entend parler quand même depuis plusieurs années. Donc, pour moi, c'est pas une blague, en fait, de retourner à la terre et de nourrir les habitants du coin, au lieu de vouloir à tout prix créer des fermes usines qui nous proposent une nourriture qui n'est pas bonne pour la santé. On entend beaucoup parler de souveraineté alimentaire aujourd'hui. Bon, mais peut-être qu'on peut aussi réfléchir à des modèles qui sont bons pour tout le monde, avec cette dimension aussi de justice sociale. Hein. La précarité, on la connaît aussi, là, les chiffres explosent sur la pauvreté. Donc, pour moi, des gens qui ont aussi, pourquoi pas, les moyens de reprendre des fermes, ben, ça peut être intéressant. Il y a aussi plein de nouveaux modèles qui existent, comme les coopératives. Il y a plein de nouvelles choses à réinventer justement avec des profils de gens qui n'ont pas ce passif agricole.
Et vous avez fait finalement le trajet inverse pour développer ce qu'on pourrait appeler une agriculture urbaine, qui a aussi un enjeu démocratique, politique. C'est une façon aussi d'amener finalement le plus grand nombre à se poser la question de la production de son alimentation, de comprendre comment ça marche.
Oui, tout à fait. Alors c'est marrant parce qu'on oppose souvent l'agriculture urbaine et l'agriculture rurale, alors qu'en réalité, l'agriculture urbaine est là pour faire passerelle. Justement, moi, j'ai pu accueillir pas mal de gens dans ma pépinière qui étaient dans cette phase de transition de vie et pour qui ces lieux, ces fermes municipales, ces jardins partagés ont été des zones transitoires avant de reprendre justement une activité agricole en milieu rural. Donc, pour moi, voilà, il ne faut pas opposer ces deux milieux. Aujourd'hui, on a 5000 lieux d'agriculture urbaine en France sur lesquels on peut créer vraiment des nouveaux métiers, faire de la réinsertion aussi professionnelle. Et encore une fois, j'entendais parler de lien social. Pour moi, il y a cette idée d'intergénérationnel. On rencontre des gens qui ne nous ressemblent pas. C'est un langage universel, en fait, de mettre les mains dans la terre.
Oui, alors, de la terre aux arbres. Jacques Tassin, on connaît aujourd'hui les bienfaits du contact avec les arbres, hein, en termes de concentration, de mémoire. Ce lien si particulier qu'on a avec les arbres, c'est pas tout à fait le fruit du hasard. L'explication, elle se trouve peut-être dans notre évolution.
Bah oui, il faut se souvenir que nous sommes des primates Et ça signifie donc que nous avons évolué, alors ça a duré plus de 60 millions d'années, cette histoire-là, dans des milieux forestiers. Et forcément, ça nous colle à la peau, ça fait plus que ça, ça nous a façonné notre corps. On sait que nos mains, elles sont ce qu'elles sont parce que nous avons passé notre temps à nous saisir de branches, de rameaux, de fruits, etc. Que notre vision stéréoscopique, on la doit aussi à cette vie dans les arbres, parce que l'évolution s'est arrangée pour faire en sorte, à force de trier, que l'on ne rate pas les marches et que l'on ne se retrouve pas au sol, ce qui est évidemment fâcheux, et ainsi de suite pour beaucoup de choses. Et donc, finalement, il suffit d'ouvrir les yeux, en quelque sorte, et de se rappeler notre constitution pour nous rendre compte que nous sommes très près des arbres. Alors, on ne peut pas dire vraiment que nous avons coévolué avec les arbres. En tout cas, nous dérivons de cette fréquentation. C'est moins vrai inversement, même si nous avons quand même participé à la dispersion des arbres, pas seulement en mangeant leurs fruits, mais ensuite en les plantant, etc.
Et du coup, concrètement, pour qu'on se représente bien, avec sans fantasmer comme ça une forme de connexion qui serait plus poétique que scientifique, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que nos vies, nous, d'êtres humains, elles dépendent ou elles s'appuient ou elles sont interdépendantes avec la vie des arbres ?
Bon, enfin, cette vision, elle est poétique et scientifique à la fois. Alors, les statistiques disent qu'un quart de l'humanité dépend directement des forêts. En réalité, nous dépendons tous des forêts. Nous dépendons de leur capacité à produire le bois dont nous avons besoin, de produire les services écosystémiques que je ne vais pas détailler, mais dont nous avons également tous besoin. Bon, ce sont aussi des climatiseurs naturels, etc. Et ce lien, il est partout et il n'est pas seulement psychologique, il n'est pas seulement poétique, il est physiologique, il est organique. Et malheureusement, nous avons tendance à oublier que quand on parle de reconnexion, c'est pas seulement du bien-être, du développement personnel ou quoi que ce soit. C'est bien plus que ça. C'est se retrouver en relation organique avec l'ensemble des êtres vivants et avec les arbres et les forêts en particulier.
Oui, alors de la canopée des arbres au pied des arbres et à leurs racines, il n'y a qu'un pas ou qu'un saut. Marc-André Sellos, vous nous invitez à ouvrir les yeux en regardant le sol autrement. Le bitume, il a recouvert ce sol bien souvent qui est si vital pour nous. Et vous aimez à rappeler que le sol est vivant. Alors est-ce que cette expression, vous pouvez nous la détailler un petit peu ? C'est quoi cette vie du sol ?
Oui, alors je vais vous le détailler, je voudrais juste donner un chiffre à l'appui de ce que disait Jacques à l'instant. Il y a plein d'études qui montrent qu'on est mieux quand il y a du sol autour de soi, et de la nature autour de soi. Et il y a cette étude qui montre que chaque fois qu'on vit chaque fois que la distance à la nature la plus proche augmente de 360 mètres, on augmente de 5% le risque de problèmes mentaux. Et que la présence de la nature autour des enfants, l'intensité de la présence de la nature autour des enfants explique entre 20 et 60% des performances de progrès scolaire. On a négligé un truc, comme disait Jacques, c'est qu'on a évolué pour avoir les pieds sur le sol, pour voir du vert, pour entendre des oiseaux, pour sentir des odeurs. On est issu d'ancêtres qui sont adaptés à ça et nous avons un petit peu rayé ça de la carte. Et notamment, nous finissons par ne plus voir ce qui est vivant, et j'en viens à la réponse à la question. Les sols, en fait, sont bourrés d'êtres vivants. Il y a bien sûr des animaux, il y a les racines des plantes, n'oubliez pas que le tiers de la plante est souterraine. Puis il y a tous ces microbes, notamment ces champignons et ces bactéries, qui donnent au sol une odeur de champignons des fois, ou justement de géosmine d'autrefois, avec ce pétrichor d'après la pluie, comme on disait. 60% des espèces qui vivent sur la Terre vivent dans la terre, avec un petit t, vivent dans le sol. C'est un haut lieu de biodiversité. Dans un gramme de sol qui tient dans votre main, il y a plusieurs milliers d'espèces de bactéries. Parce que pour elles, c'est comme le très grand Paris avec des immeubles de 500 étages. Il y a plein de place pour mettre des bactéries. Il y a 1000 espèces de champignons. Il y a des centaines d'espèces d'amibes. Trouvez-moi un zoo où on peut voir autant d'espèces. Alors c'est vrai qu'on ne peut pas forcément les voir, mais c'est elles qui font l'activité du sol, c'est elles qui dégradent la matière organique et qui vont faire que ça va redonner du phosphate et de l'azote pour que les plantes repoussent, c'est elles qui attaquent les roches pour libérer le fer et les oligo-éléments, c'est elles qui font des trous en se déplaçant, ou en mourant d'ailleurs, des trous qui retiennent l'eau, qui fait qu'il y a de l'eau sur Terre et que cette eau elle est filtrée. qualité pour que nous la buvions. Et finalement, vous savez quoi? Cette eau retenue par les sols qui finit dans des sources ou dans des rivières, vous la buvez. Cette matière fertile du sol qui donne de l'azote, du phosphate, des oligo-éléments, du fer, du magnésium, du calcium, ça rentre dans les plantes et finalement, ou dans les animaux qui les mangent, et finalement vous les mangez, je vais vous dire, c'est vous cette vie. Ce que je veux dire par là, c'est que cette étymologie commune entre humus, donc les composants du sol,
et humanité,
et humain, c'est que nous sommes pétris de sol, nous sommes une expansion du sol. Je dis parfois que notre vie est un sursaut au-dessus du sol. Nous sommes faits de composés extraits du sol, et à notre mort nous retournons au sol, notre vie est un sursaut.
Au-dessus du sol. Alors, ce sol, il est aujourd'hui aussi l'objet de beaucoup de débats et de beaucoup de discussions à la fois économiques et politiques autour de la question de sa pollution ou de ce que les pesticides peuvent entraîner sur lui. Alors, quelle position il faut avoir sur les pesticides? On aurait plutôt tendance à penser que il en faut zéro, hein, et que c'est plutôt quelque chose qu'il faut éliminer. Comment vous pouvez nous aider, Marc-André Sellos, à y voir un peu plus clair sur cette question?
Alors, ne demandez jamais à un scientifique quelle position il faut avoir. Ça, c'est décision démocratique.
Ah non, mais pour nous aider à comprendre.
Mais j'entends bien votre question, mais je ne voudrais pas donner l'impression que la science doit gouverner. Simplement, elle donne des informations avec lesquelles, ensuite, on peut décider, et décider vraiment librement. On sait aujourd'hui que l'artificialisation des sols, on perd, parce que les villes grandissent, 5 terrains de foot par heure en France, jour et nuit. On perd la surface qui nourrit la ville du Havre chaque année. C'est quelque chose qui nous prive de produire, surtout dans un changement climatique qui va réduire la production, ça nous prive de produire. Et les lois récentes qui sont revenues sur les programmes de réduction de l'artificialisation, je parle de la loi ZAN, hein, qui a été détruite par le Sénat, c'est quelque chose qui nous prive de manger. De la même façon, récemment, avec la loi Duplomb, on a vu revenir des pesticides qui détruisent les insectes pollinisateurs. Alors ça, c'est grave parce qu'on sait très bien qu'il y a des productions fruitières qui sont limitées aujourd'hui par le nombre de pollinisateurs. Vous élevez des pollinisateurs dans un champ de cassis en Bourgogne, vous multipliez la production par 4. Pourquoi ? Parce qu'en 40 ans, on a perdu 98% des insectes. Et puis, ces pesticides, ils finissent dans le sol. Et de là, ils suivent le chemin que je vous disais. Hein. Ils passent dans les résidus de pesticides passent dans les végétaux, vous les mangez. Ils passent dans l'eau. Vous les mangez ou vous payez des impôts locaux pour dépolluer ça. Je pense qu'on ne se passera pas. Pesticides. Je le dis sincèrement, même l'agriculture bio utilise du cuivre. Mais l'idée, c'est d'en utiliser le moins possible pour avoir le moins possible de toxicité et d'utiliser toutes les autres méthodes, celles de l'agroécologie avec des haies, des cultures mélangées, des cultures alternées, pour freiner la propagation des maladies, utiliser la loutre biologique comme utilise le bio et penser un arsenal et pas une solution unique et aider l'agriculture à évoluer parce que je vais vous dire, la preuve de la toxicité des pesticides, c'est l'état de santé des agriculteurs. N'est-ce pas? Plus 13% de Parkinson à 55 ans, alors que la vie dans la nature est plus saine, on le disait, et qu'il devrait avoir beaucoup moins de Parkinson que le reste de la population. Ben non, à 55 ans, plus 13%. Ils sont le canari dans la mine. Ils sont la preuve vivante, pardon, moribonde et mourante, du danger des pesticides qui fait que si on ne peut pas s'en passer, en revanche, il faut les utiliser de façon limitée. C'est ce sur quoi c'est assis, c'est la science sur laquelle s'est assise la décision que l'Assemblée a prise en ratifiant la loi Duplomb.
Donc c'est une complexité qu'il faut aborder avec sagesse et avec en tenant compte des différents aspects. Et ça suppose donc aussi une pédagogie, une éducation singulière à l'égard de ces questions. Et ça, je crois que c'est un point commun que vous avez tous les trois, qui me paraît extrêmement important et dont on va parler dans la suite de cette émission. Alors n'hésitez pas à réagir au 01 45 24 7000. On vous laisse la parole après un titre, alors moi que je chantonne à longueur de journée, mais je vous assure que c'est beaucoup mieux quand c'est Vanessa Paradis.
Juste retour des choses, comme une overdose, mais c'est le bouquet final, mais c'est le bouquet final. J'avoue, je les ai attendus longtemps, mais les fleurs ne parlent qu'au présent, les regrets n'aiment pas. Tu peux leur faire dire tout ce que tu veux. Sur la carte qui c'est l'encre bleue, me dit que tu n'aimes que moi. Le rouge et le rouge sang, couleur des amants, mais c'est le bouquet final, final. Fatal, c'est toujours bien de finir en beauté. Y'a le nom à père, ruban satiné, sans vouloir jeter.
30 ans j'aime t'aimer. Et mon envie de te serrer, serrer. Tout y aimait plus le cœur.
Vanessa Paradis est le premier extrait de son album attendu à l'automne. La chanson est intitulée « Bouquet final ». La musique est d'Étienne Dao et les paroles sont signées Dorian.
Grand bien vous fasse sur France Inter.
Question suivante. Ton projet idéal serait lequel si tu avais un gros budget? Si j'étais pété de thunes, je crois que je développerais vraiment cette idée de l'école buissonnière en faisant vraiment un endroit beaucoup plus grand où les gens peuvent venir s'essayer à mettre les mains dans la terre. Vraiment développer ce côté anti-école. Et donc peut-être embaucher des gens qui ont vraiment cette connaissance de l'éducation populaire. Et donc de développer plein de formats pédagogiques pour donner envie aux gens de juste essayer et d'échouer et que ce soit OK.
Extrait donc de votre compte Instagram, Ophélie Damblay, le compte intitulé Ta Mère Nature. Et ce matin, nous évoquons donc le plaisir à être connecté à la nature avec nos deux autres invités, Marc-André Sellos, qui est microbiologiste, et Jacques Tassin, qui est biologiste. Alors Ophélie Damblay, sur ce qu'on vient d'écouter, une grande partie de votre activité aussi, alors vous l'avez mise en pause, mais vous avez sans doute nous expliqué comment vous allez la reprendre, c'est ces ateliers d'école buissonnière. En quoi ça consiste ces ateliers ?
Oui, ça fait maintenant 2 ans que j'accueille un groupe d'habitantes et habitants du 93 dans la découverte et la pratique du jardinage, avec cette idée que à la fois je leur apporte des thématiques et puis ce que je sais, mais sans cette forme d'ascendance par rapport à mon savoir, parce que finalement, quand on se met à jardiner, il y a beaucoup de choses qu'on ne maîtrise pas, et moi je vois bien que ça fait 10 ans que je travaille là-dedans, et pourtant j'en apprends tous les jours, donc c'est infini, et c'est ça qui est génial, c'est que je reçois à la fois des publics d'enfants, d'adolescents, d'adultes, et on se met à échanger vraiment sur nos savoirs. Franchement, chaque année, je découvre des nouvelles variétés grâce aux adolescents que je reçois. Et il y a aussi de l'ordre aussi de l'échec, en fait. Et que moi, j'adore rappeler, c'est que même en tant que pépiniériste, je continue de faire crever des plantes de temps en temps, tout simplement parce que, en fait, on ne maîtrise pas tout. On a beau être des humains qui pensons qu'on contrôle beaucoup de choses, quand il s'agit de nature, finalement, ça nous dépasse beaucoup. Et on voit bien que le changement climatique joue beaucoup. On peut avoir avoir des attaques de ravageurs, etc. Et donc, il faut juste apprendre à vivre avec. Et c'est là où, moi, j'ai appris aussi à cohabiter avec ces fameuses mauvaises herbes. Mmh. Au départ, on nous dit qu'elles sont pas bonnes, qu'elles vont tout
étouffer.
Voilà, exactement. Ouais. Bon, finalement, on se rend compte qu'on peut très, très bien cohabiter. Il suffit juste de leur laisser peut-être un petit espace parfois un peu les calmer, mais finalement, elles nous apportent aussi beaucoup de services. Mmh. Tout simplement parce qu'elles sont le gîte et le couvert de bon nombre d'autres espèces vivantes. On n'est pas seul sur Terre. Et donc, c'est changer aussi beaucoup de regard. Et c'est ça que je vois avec tous les gens que je reçois. C'est ce changement de regard et aussi cette capacité à faire par soi-même. Mmh. Et je vois bien, là, les ados, quand ils récoltent leur première courgette, mais c'est la fête, quoi. C'est vraiment une célébration, une joie.
Une fierté.
Fierté. Quelque chose, quand on est un élève décrocheur et qu'on nous dit toute l'année qu'on est mauvais, qu'on n'est pas capable de se concentrer, etc., et que finalement on arrive à faire quelque chose d'aussi incroyable que de cultiver et finalement produire sa propre nourriture, c'est très puissant.
Et c'est pour ça aussi qu'il faut laisser les enfants aller se jeter sur les fleurs. C'est ce que nous dit Daniel qui nous appelle. Bonjour Daniel.
Bonjour. Bonjour, oui, je voulais témoigner parce que j'étais auxiliaire de puériculture et j'ai assisté à une vague hygiéniste sidérante. Ils ont commencé par enterrer le tas de sable sous prétexte que c'était pas propre, ouais. Que les chats éventuellement pouvaient, etc., alors qu'on mettait une bâche tous les soirs. Donc, le tas de sable disparu sous le ciment, les enfants se sont jetés sur les plates-bandes où il y avait de la terre. Un besoin urgent de toucher, c'était flagrant. Et évidemment, là, ils étaient vraiment sales, couverts de terre noire. Donc, ils ont supprimé tout ce qui était terre, ils ont tout damé. Et voilà, ils ont eu des jeux... comme d'habitude.
Voilà, sans contact sensible avec la terre, les fleurs ou le sable. Ophélie Damblay.
Si je peux donner une petite note d'espoir, on a aujourd'hui des exemples tels que les cours Oasis, donc tout un programme de débétonisation des cours d'école. Et alors, on a vraiment des exemples très, très concrets aujourd'hui en France et même ailleurs en Europe. Et ça prouve en fait que, alors déjà, les enfants, on a capté que ça développait leur créativité. Donc finalement, le dégenrage se fait un petit peu, c'est plus les garçons qui prennent toute la place pour faire du foot, mais là il y a quelque chose de l'ordre
d'une égalité qui revient.
Voilà, un peu plus, c'est vraiment de créativité, et puis on est toujours pareil depuis le début de l'émission, de l'ordre du sensoriel en fait.
Merci Daniel. Et alors justement, Marc-André Sellos, vous avez des informations sur les tas de sable, sur les bacs à sable.
Ah ça m'a fait sursauter d'entendre ce propos plein de bon sens. C'est vrai qu'on vit entouré d'hygiénisme. Hein, et ce que j'explique dans mon livre « Nature et préjugés », c'est qu'il faut convier l'humanité dans l'histoire naturelle en lui redonnant des contacts. Alors, il y a justement un travail qui a été fait de mettre des enfants à jouer dans un tas de sable un petit peu noirci, soit par un colorant mais sans microbes, soit par un mélange avec de la terre. Et en comparant les deux types d'enfants qui jouent dans des cours d'école quelques heures par jour pendant 15 jours, on s'aperçoit que certains microbes venus du sable, quand il y a du sol, colonisent leur peau, bon, mais c'est réversible avec le temps. Mais surtout, on voit augmenter l'interleukine 10 des enfants qui jouent avec du sable contaminé par du sol et diminuer l'interleukine 17. Je traduis, interleukines, ce sont des régulateurs du système immunitaire. L'interleukine 10 permet au système immunitaire de fonctionner bien. La 17 crée des états inflammatoires anormaux et dangereux. Ce que ça veut dire, c'est que le fait qu'ils aient mis la main quelques heures par jour dans du sable avec du sol régule le système immunitaire, sans doute par le biais des bactéries qui colonisent leur peau. Alors c'est un travail qui est très pointu, c'est un travail d'immunologie, mais il est magnifique parce qu'il donne raison à votre auditrice. Ce contact avec la nature, on est fait pour, et quand il n'est pas là, les interleukines dansent comme les souris dansent quand le chat n'est pas là. Mmh. Et il est temps de remettre le chat pour que les souris rentrent dans l'ordre. C'est la nature, le chat. C'est la nature, la régulation de notre physiologie.
on comprend qu'il faut effectivement changer de regard, s'informer, comprendre pour transformer notre relation à la nature, même cette relation très quotidienne de sensibilité, de contact. Jacques Tassin, il va falloir aussi, pour sensibiliser les enfants, déconstruire notre imaginaire, déconstruire les contes, parce que dans les contes, la forêt est toujours un lieu inquiétant, un lieu de peur, d'abandon, on y trouve des monstres et des menaces. Comment est-ce qu'on peut, comme ça, transformer notre imaginaire de la forêt ?
Alors effectivement, les contes véhiculent beaucoup de craintes, de peurs, et c'est encore en vigueur. Alors qu'on peut se servir de l'imaginaire des forêts pour y voir au contraire une manière de vivre ensemble, parce qu'on est là-dedans aussi. Quand on entend parler de ces enfants qui patouchent, qui mettent les mains dans la terre, on sait aussi, ça a été étudié, que leur agressivité finalement mutuelle décroît. Alors là, des exemples comme ça, il y en a des dizaines. Et donc, c'est ça aussi. Alors, je ne suis pas en train de dire que dans la forêt, tout se passe pour le mieux, qu'il n'y a pas un peu de compétitivité, et puis qu'il y en a qui laissent leur peau ou leur plume, ou leur feuille. Mais en tout cas, il y a une capacité à cohabiter, à coexister, à vivre en coprésence, dont nous pourrions à minima nous inspirer. Les enfants le font très bien, le sentent, ça. Et finalement, ils reproduisent, sans le savoir, évidemment, ce qu'ils observent, cette forme de vivre ensemble. L'écologie, la vie, c'est ça, hein, c'est toujours cette extension de soi, ce fait que l'on ne s'arrête pas à son enveloppe corporelle. C'est exactement l'exemple que vient de donner Marc-André Sellos. Nous prolongeons dans ce qui n'est pas nous-mêmes. Et ça, les enfants le savent spontanément, instinctivement, et nous, on nous apprend à l'école à surtout ne pas considérer cela, ce qui est un non-sens.
Oui, c'est-à-dire qu'il y a aussi cette dimension vivre ensemble, donc cette dimension politique, en fait, de notre apprentissage avec la nature et avec ces contacts et cette expérience que l'on peut entretenir finalement tout au long de notre enfance et jeunesse. Ophélie Damblé, vous nous avez dit que vous faisiez ces ateliers aussi donc, de transmission et d'éducation avec les enfants, et parfois vos actions sont un petit peu plus, radicales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on appelle la guérilla urbaine ?
Alors la Green Guérilla, parce que la guérilla urbaine c'est peut-être autre chose, mais en tout cas c'est un mouvement qui est né dans les années 70 et qui vise à végétaliser en fait tout type d'espace urbain et public aussi. Donc l'idée c'est de sortir de son jardin et d'aller végétaliser n'importe quel type de
lieu. Donc le pied des arbres, des plates-bandes dans un square.
Voilà, et donc il peut y avoir une gradation de type de végétalisation. Alors on parle souvent de la bombe de graines qui est aussi un des symboles de ce mouvement. Donc c'est l'idée d'aller comme ça balancer des petites bombes de graines mellifères un peu là où il y a n'importe quel type de terre. Et on va aller jusqu'à finalement parfois protéger des zones qui sont menacées par des projets de bétonisation, de construction de parking, etc. Et donc là c'est vraiment des groupes de citoyennes et citoyens qui protègent en fait ces moindres bouts de terre dans l'idée que en fait la terre c'est pas juste pour les gens qui ont l'argent d'avoir un jardin. On parle de chiffres là de pauvreté qui explose, de taux de pauvreté, on parle de précarité alimentaire. Il faut protéger toutes ces zones et en faire des espaces nourriciers pour toutes et tous. Donc la Green Guérilla, elle vient comme ça redémocratiser aussi ce droit à la terre pour tout le monde, les pauvres comme les riches, les enfants comme les plus âgés. C'est l'idée de se retrouver sur cette espèce de place de village nourricière.
Et parfois aussi, la nature qui nous entoure, elle est victime de catastrophes, d'incendies en ce moment. C'est à la fois ce qui menace et ce qui va menacer tout l'été. Jacques Tassin, quand il y a des centaines d'hectares comme ça de forêts qui disparaissent, combien est-ce qu'il faut d'années pour que finalement on retrouve, alors si ce n'est exactement les mêmes forêts, du moins une forme d'écosystème qui en a les mêmes caractéristiques.
Alors effectivement, la forêt est très résiliente et s'il y a suffisamment de semences à proximité, la forêt est appelée à se reconstituer dans le meilleur des cas. Hein, parce que si le sol est très abîmé, après, toutes les conditions sont réunies pour que la forêt ne se reconstitue pas. Mais ça, on a été très surpris, ça a été étudié, de s'apercevoir que dans des forêts tropicales, au bout de 20-30 ans, On a une forêt qui retrouve la physionomie d'une, de ce qu'on appelle, peut-être à tort, une forêt primaire. Alors évidemment, il n'y a pas tout à fait les espèces rares qu'on peut y trouver, mais en tout cas, au bout d'une trentaine d'années, on arrive à peu près 80% des espèces qui, encore une fois, si les conditions sont réunies, et puis si les activités humaines font que cette mise en résilience est possible, on a une reconstitution rapide. Moi, j'ai un souvenir qui me revient où, en Nouvelle-Calédonie, je me promenais en forêt, et puis je pose les yeux à terre, qu'est-ce que je vois ? Des rails de chemin de fer. Et en me renseignant, ces rails de chemin de fer, ils avaient 20 ans. Donc, heureusement, il y a cette résilience, mais à condition que cette forêt, on l'aide, qu'on l'accompagne.
Qu'on la laisse surtout, être résiliente, oui.
Exactement. Mmh. Qu'on lui foute un peu la paix, quoi.
Alors, depuis la Terre jusqu'à la canopée, notre voyage au cœur de cette nature donc résiliente se termine malheureusement dans quelques minutes, mais le temps encore de chatouiller nos invités avec quelques questions, le temps de lire vos messages aussi, chers auditeurs, chères auditrices, et puis le temps d'écouter un dernier titre, celui d'un chanteur de soul qui réchauffe les corps et les âmes. Il vient d'Atlanta, il a une culture musicale extrêmement riche et éclectique. Son album est attendu en septembre. Il sera sur la scène de l'Olympia le 28 octobre et pour l'instant, il est sur France Inter. C'est Curtis Harding qui chante « There She Goes ». There She Goes par Curtis Harding.
Ah, la barre de terre.
Oui, monsieur, la barre de terre.
Grand bien vous fasse.
Venez pas le verre de terre.
On va arroser le tournesol.
Sur France Inter.
Ben oui, le verre de terre, bien sûr. Alors, Ophélie, d'emblée, j'ai envie de me lancer dans quelques plantations alors que je vis en appartement. Qu'est-ce que vous me conseillez ? C'est aussi la question de Claire à Boulogne-Billancourt qui se demande si on peut faire pousser des fruits et légumes dans les jardins des villes sans risquer de capter toute la pollution urbaine.
Alors c'est sûr qu'on part pas tous égaux sur cette question. Effectivement, il faut vraiment observer les contraintes qu'on a avec son appartement. Alors déjà, plus on monte en altitude, plus on gagne en qualité d'air.
Donc vaut mieux planter au cinquième étage.
Exactement, voilà, ou sur un toit. En tout cas, si on donne sur un grand boulevard qui est traversé par beaucoup de voitures et qu'on habite au premier étage, c'est peut-être pas la meilleure des idées. Mais voilà, dès qu'on est un petit peu coupé de la circulation, on a plus de chances d'avoir des bonnes qualités. Et puis après, il faut regarder son exposition. Est-ce qu'on a beaucoup de lumière ou pas? Est-ce qu'on a beaucoup de vent qui passe ou pas? Parce que ça aussi, ça peut jouer en fait sur la croissance des plantes. On a la fonction boussole sur nos portables, donc faut vraiment pas hésiter à l'utiliser. Et une fois qu'on a ces contraintes là, on se tourne vers des plantes qui aiment plus ou moins la lumière ou pas. Une tomate exposée plein nord, a priori, elle va pas nous donner beaucoup de fruits.
La petite jardinière où on met les plantes aromatiques, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on peut faire facilement.
Ça peut fonctionner, mais c'est vrai que le hors sol, de fait, nous coupe de tous les bienfaits en fait de la pleine terre. Oui. Et donc plus on va avoir des contenants profonds, plus la plante va aussi pouvoir s'épanouir et pouvoir puiser les fameux nutriments contenus dans cette terre. Donc je dirais qu'il faut pas lésiner sur la taille de ces contenants et sur la qualité aussi de la terre. Donc ne pas hésiter à la renourrir régulièrement avec des apports de compost, par exemple, qui peuvent beaucoup jouer en fait sur la croissance.
Merci beaucoup. Alors Jacques Tassin, vous dites souvent que la forêt nous invite à voir le monde dans sa complexité, que c'est une bonne façon de comprendre aussi ce qui se joue et ce qui change. Est-ce que vous savez ou est-ce que vous avez des pistes pour nous dire à quoi ressemblera la forêt de demain ?
Alors c'est quand même difficile de devenir deviner
l'avenir. Oui.
Alors ce que l'on sait évidemment, c'est que le changement climatique, si par bonheur on arrive à le juguler, et j'espère fermement qu'on y parviendra si on le veut, la forêt continuera de souffrir. Elle est sous tension. On sait que les forêts tropicales maintenant émettent du carbone, alors qu'on a longtemps cru qu'elles continuaient d'en fixer. Donc ce sera une physionomie différente avec des espèces qui se seront recomposées. Bon, rien de nouveau finalement, ça a toujours été comme ça, avec sans doute beaucoup plus d'espèces exotiques que par le passé, mais ça ne veut pas dire que ce sera nécessairement, en tout cas en dehors des contraintes que je viens d'évoquer, qui évidemment vont peser, ça ne veut pas dire que ces forêts seront moins efficaces, fonctionneront moins bien. Et puis il y aura aussi certainement, parce que le modèle agricole dominant est totalement essoufflé, un renouveau immanquable de l'agroforesterie avec des arbres dont on a besoin qui permettront de réinstaurer des processus écologiques qu'on a remplacés par des intrants.
Tous les jours, nous terminons alors cette émission et la conversation avec vos coups de cœur, vos conseils pour poursuivre la réflexion donc sur le thème de l'émission. Et donc aujourd'hui, c'est plaisir de se connecter à la terre, à la nature en général. Marc-André Sellos, est-ce que cette conversation, elle vous a fait penser à un film, un livre, une chanson, une citation, un son, enfin quelque chose que vous voudriez confier à nos auditeurs et nos auditrices pour qu'ils puissent prolonger leur réflexion?
En partant du sol et en allant vers le citoyen qui mange les produits du sol, il y a un film, un petit documentaire tourné dans les Hauts-de-France qui est génial, c'est Paysans de la terre au ciel. C'est de toute beauté. On voit comment des agriculteurs, un peu des chercheurs, un peu des élus entreprennent une forme d'agroécologie qui est en fait l'agriculture non labourée pour résoudre les problèmes d'érosion et d'inondation dans les Hauts-de-France. C'est frais, c'est plein d'acteurs, c'est plein de réalisme, c'est positif. Ça pose un imaginaire autour des connaissances du vivant et autour du vivant comme outil, paysan du ciel et de la terre. Franchement, c'est l'imaginaire positif dont on a beaucoup besoin dans des débats en ce moment sur l'environnement et notre lien à la nature qui ne sont pas toujours aussi enthousiasmants que ce film ne peut l'être.
Eh bien, on y va. Et vous, Jacques Tassin, qu'est-ce que vous voudriez confier à l'attention de nos auditeurs et auditrices ?
Alors, puisque le temps des vacances arrive, au moins pour la majorité d'entre nous, c'est du temps pour lire. Et moi, je suggère de mettre dans la valise un livre très inspirant qui nous rappelle combien nous ne nous arrêtons pas à nous-mêmes. Il s'appelle « Jamais seul ». C'est un livre de Marc-André Sellos. Et... Alors, un grand poète américain, Walt Whitman, disait, alors, au 19e siècle, je ne suis pas circonscrit entre mes souliers et mon chapeau. Il avait cette intuition, cette intuition poétique, que tout individu est prolongé par ce qui n'est pas lui-même. Et Marc-André Sellos nous explique tout ça en termes scientifiques. Comme quoi, finalement, la poésie et la science ne s'opposent pas.
Vont ensemble, jamais seuls, donc, de Marc-André Sellos. Et vous, Ophélie Damblay ?
Alors moi je vais être très pragmatique puisqu'il s'agit d'un manifeste pour l'agriculture urbaine qui a été écrit par l'association LAFOP qui milite pour justement le développement de toutes ces fermes urbaines partout en France. Et en fait ça vous donnera plein de super arguments, c'est vraiment un très bon outil pour convaincre en fait à la fois les collectivités, les municipalités de mettre des espaces nourriciers partout. Voilà.
Eh ben, on y va. Merci beaucoup, merci infiniment à tous les trois. Toutes les références de vos livres sont à retrouver sur la page de l'émission via l'application Radio France. Ophélie Damblay, on vous suit donc sur les réseaux via votre compte Ta Mère Nature. Et sur cette terre, il y avait donc ce matin Claire Destacan à la réalisation, Jessica Bagic, Anna Massardier, Noélia Filiol et Elina Garcia à la préparation. À la technique, Gaspard Guy Bourguet et Rémi Sistiaga.